VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. Il est 11h en temps universel en Somalie. Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans l'explosion de 2 véhicules piégés aux abords d'un hôtel du centre de Mogadiscio, la capitale, suivi d'une attaque par des militants Shebab armés. D'après l'AFP, un véhicule piégé a été lancé en début de matinée sur l'une des entrées du périmètre de sécurité de l'hôtel Daya, fréquenté par des hommes politiques et situé près du Parlement et de la présidence somalienne. Plusieurs hommes armés ont ensuite pénétré dans l'enceinte de l'hôtel et commencé à échanger des coups de feu avec les gardes de sécurité. Une deuxième explosion puissante d'un véhicule laissé aux alentours a ensuite eu lieu alors que les services de secours, des policiers et des journalistes étaient arrivés sur place. Les islamistes radicaux Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont revendiqué ce double attentat via leur compte Telegram. Le département d'État américain vient d'approuver une éventuelle vente d'appareils militaires de l'ordre de 418 millions de dollars au Kenya, ce qui aiderait dans la lutte contre le groupe Al-Shabaab. Jacques Aristide.
L'accord approuvé sous le mandat de Barack Obama, tout juste avant l'arrivée de la nouvelle administration de Donald Trump, devra être soumis au Congrès américain afin d'obtenir le feu vert final. Cette possible acquisition par l'armée kenyane concerne notamment des avions à usage agricole, convertibles à l'usage militaire, des engins dont l'efficacité financière et militaire est élevée. Le deal, s'il se matérialise, permettra donc au Kenya de renouveler sa flotte aérienne avec du matériel américain. L'Agence américaine de coopération en matière de sécurité et de défense, qui tombe sous le Pentagone, précise que l'approbation a trait à la vente possible de 12 avions Air Tractor et 2 AT Trainer Aircrafts, des armes, du soutien technique, de même que la gestion du programme. Ces appareils devraient pouvoir soutenir le Kenya dans la lutte contre Al-Shabaab. D'après les autorités kenyanes, de tels engins sont capables de voler plus près des zones de conflit que les vieux avions du Kenya. De plus, ces engins sont adaptables et peuvent être déployés en version anti-incendie ou armée. Toujours selon le Kenya, la vente proposée ne changera en rien l'équilibre militaire de base dans la région.
Donc Samuel Luak, un avocat et activiste des droits de l'homme sud-soudanais, a été arrêté au Kenya et risque d'être expulsé vers le Soudan du Sud, a averti aujourd'hui l'ONG Human Rights Watch, qui craint qu'il soit détenu arbitrairement et torturé une fois à Juba. Human Rights Watch a dès lors appelé le Kenya à respecter ses droits, lui garantir l'accès à un avocat et des responsables de l'ONU pour les réfugiés et mettre un terme à toute procédure de déportation le visant.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
On va en Gambie. Le nouveau président Adama Barrow attend cette semaine un rapport sur la sécurité avant de rentrer à Banjul. Par ailleurs, des soldats de la CEDEAO préparent son retour. Réfugié à Dakar, M. Barrow a demandé à la mission militaire ouest-africaine de rester 6 mois dans le pays pour savoir les défis qui attendent le président gambien. Eric Manirakiza a joint à Londres Fatou Diagne de l'ONG Article 19.
Nous avons l'habitude depuis quelques années effectivement que des États, en l'occurrence le Cameroun, utilisent la question de la rumeur, de l'atteinte à l'ordre public pour justifier la censure sur Internet. Sauf qu'il existe des règles internationales et le Cameroun a signé et ratifié de nombreux traités internationaux qui protègent les libertés et qui évidemment permettent à l'État de réprimer en temps nécessaire mais à des conditions très strictes. La première condition c'est qu'effectivement il y a une atteinte à l'ordre public, sauf que ce n'est pas à l'État seul de dire qu'il y a atteinte à l'ordre public. Il faut que ce soit une autorité judiciaire qui confirme et qui atteste qu'il y a une atteinte à l'ordre public qui nécessite une limitation des libertés publiques. Or, dans le cadre des figures actuelles du Cameroun, à aucun moment un juge n'est intervenu pour expliquer que là où on se trouve, il faut que l'État intervienne pour réprimer les libertés. C'est ça que nous dénonçons et c'est ça qui, pour nous, potentiellement constitue la violation, une violation du droit international des nombreux engagements du Cameroun sur la question des libertés fondamentales.
C'était plutôt Julie Owono, avocate et responsable Afrique d'Internet sans frontières, qui se plaignait des coupures récurrentes de l'Internet au Cameroun. Retour maintenant en Gambie. Le nouveau président Adama Barrow attend cette semaine donc un rapport sur la sécurité avant de rentrer en Banjul, sur les défis qui l'attendent. Écoutons Fatou Diagne de l'ONG Article 19, interrogé par Eric Manirakiza.
Aujourd'hui, le président Diagne devient une histoire. Mais le président Diagne était aussi un système. Donc il est clair que le président Diagne est parti, mais son système doit être revu. Et je pense que c'est ça le plus grand défi.
Après 22 ans de pouvoir et sa tentative de s'y maintenir, vu la manière dont il est parti, concrètement, comment gérer d'après Yahya Diagne?
C'est une Gambie nouvelle qui a suivi ses élections, suivi la campagne. Vous savez que c'était ce slogan qui a tout au long rythmé cette campagne électorale qui a donné victoire à la coalition de sept partis. Et aujourd'hui, la Gambie commence à vivre une nouvelle ère. Et c'est une nouvelle Gambie, une Gambie qui va être unifiée, c'est un défi. C'est ce que les Gambiens ont voulu en votant pour une coalition. C'est une Gambie aussi qui doit se réconcilier. Parce qu'après 22 ans, il y a eu tellement de difficultés, l'état de droit a été sapé. Donc il va falloir reconstruire les bases de l'état et essayer de consolider l'état de droit pour permettre à tout un chacun de pouvoir jouir de ses droits. Et aussi de faire en sorte que ce qui s'est passé pendant ces dernières 22 ans puisse être utilisé comme une leçon pour l'avenir. Et c'est là où c'est important la réconciliation nationale. Mais qui dit réconciliation nationale dit vérité. Donc il est évident que cette commission qui pourra peut-être avoir plusieurs formes, qui aura peut-être un nom différent d'une commission vérité-réconciliation qu'on a connue dans d'autres pays, va être une commission qui permettra aux Gambiens de pouvoir se chercher et de pouvoir dire à leur façon leur histoire, leur douleur, et se pardonner pour aller de l'avant et pour donner confiance aux populations.
Est-ce que vous pensez que le nouveau président est bien préparé pour assumer ses responsabilités et gérer cette crise qui n'est pas terminée?
Maintenant, le travail commence. Le président Barrow est entouré, comme je vous l'ai dit, c'est une coalition de sept partis politiques. Les attentes sont très importantes en Gambie, surtout de la jeunesse, et nous espérons qu'il saura tirer un profit de la situation actuelle et faire revenir tous les Gambiens qui sont compétents pour former un gouvernement et aussi apaiser les cœurs et permettre à la Gambie de tourner la page et de travailler pour son développement.
Fatou Diagne de l'ONG Article 19, jointe à Londres. En Côte d'Ivoire, la grève des fonctionnaires ivoiriens déclenchée depuis le 9 janvier, dont on avait pourtant annoncé la fin, se poursuit. Théodore Nyanyazadi, l'un des leaders syndicaux, a déclaré que les grévistes voudraient maintenant rencontrer le président ou son vice-président, accusant le chef de l'État Alassane Ouattara de ne s'être jamais prononcé sur leur mouvement. Il faut qu'ils disent quelque chose vu l'état de la situation, a-t-il indiqué, ajoutant que tout est bloqué et le mouvement s'est renforcé sur le terrain.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Place maintenant au sport. Le champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations d'Afrique est éliminé. La Côte d'Ivoire a été éliminée. La Côte d'Ivoire a été battue hier par le Maroc 1-0. Les Lions de l'Atlas qui se qualifient donc pour les quarts de finale à l'issue de ce match en occupant la deuxième place de ce groupe C, puisque les Léopards de la RDC terminent eux premiers après une belle victoire 3-1 contre le Togo. Ce jeudi, la grande finale du groupe D va opposer le Ghana à l'Égypte. Les Black Stars sont déjà qualifiés, auront fort à faire face aux Pharaons qui ne sont pas, eux, assurés de la qualification. Le Mali, lui, est en embuscade face à l'Ouganda et devra absolument l'emporter, comme nous l'explique notre envoyé spécial au Gabon, Timothée Donagmaï.
Avec au compteur un point obtenu suite à leur nul contre l'Égypte en première journée, 0-0, les poulains d'Alain Giresse sont dans une position on ne peut plus délicate. Troisième derrière l'Égypte, 4 points, et le Ghana déjà qualifié pour l'écart avec 6 points. Les Maliens n'ont pas d'autre choix que de gagner contre les Cranes, les Grises ougandaises. Une telle victoire améliorerait leur chance d'avancer sans la garantir pour autant. Pour ce faire, les Aigles maliens devront espérer que les Black Stars du Ghana battent les Pharaons, un match où les Égyptiens mettront toutes leurs forces dans la bataille. Autre obstacle dans la voie des Maliens, les Grises ougandaises déjà éliminées, mais qui aimeraient rentrer à la maison avec ne fût-ce qu'un point pour sauver l'honneur. Bref, beaucoup de conditions à remplir pour que les Aigles du Mali accèdent au quart de finale de cette CAN 2017. Il ne leur reste plus qu'à jouer leur meilleur football et prier pour un miracle. Timothée Donagmaï, Libreville, VOA Afrique.
Point final à ce journal. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Merci et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.